Mais tout d'abord, on se penche sur les pénalités discriminatoires de la Régie des rentes du Québec. Je m'explique. Selon les règles de la RRQ, quiconque ayant bénéficié d'une rente pour invalidité entre 60 et 65 ans est considéré de la même manière qu'une personne ayant pris une retraite hâtive. Donc, le montant de leur rente de retraite quand les gens parviennent à l'âge de 65 ans est réduit parce qu'on tient compte des années durant lesquelles ils ont reçu une rente d'invalidité. Certains prestataires ne l'entendent pas de cette oreille et ils sont appuyés dans leur contestation par l'organisme Moelle épinière et motricité Québec, Mémo Québec, où je joins le conseiller principal en intégration, volet défense des droits, M. Nicolas Messier. Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous expliquer tout d'abord en quoi consiste cette pénalité?
Bien, en fait, comme vous le disiez, pour tout bénéficiaire qui reçoit sa rente d'invalidité entre 60 et 65 ans, et donc parce qu'il est invalide et qu'il est incapable de travailler, peu importe le moment auquel elle a commencé à recevoir cette aide-là, sera pénalisé de 0,5% pour chaque mois, donc 6% par année, 30% sur leur rente, si on veut, projetée à l'âge de 65 ans. Pour donner un exemple clair, disons, quelqu'un qui aurait une rente d'invalidité, en fait, c'est qu'à 65 ans, pardon, la rente d'invalidité est transformée automatiquement en rente de vieillesse. Et donc, à 65 ans, une personne qui recevait 915 $ par mois, par exemple, de rente d'invalidité, va se mettre à recevoir 420 $ au lieu de 600, qui serait, disons, le montant de sa rente estimée à 65 ans.
Donc, on voit quand même une différence assez marquée dans les revenus. Le supplément du revenu garanti ne peut pas couvrir cette différence?
En fait, c'est effectivement un des arguments qui est avancé par la Régie des rentes pour justifier la pénalité. Alors qu'en fait, selon les calculs qu'on a fait dans des cas types, si on veut, la couverture est très partielle ou voire nulle, et donc c'est le bénéficiaire qui va se mettre à assumer la pénalité assez rapidement du moment qu'il y a quelques revenus supplémentaires complémentaires. Là. Donc ça veut dire par exemple quelqu'un qui aurait des placements ou qui aurait un REER. Donc très rapidement, de façon exponentielle, le montant du supplément de revenu garanti va diminuer jusqu'à devenir nul finalement.
La pénalité est basée sur les montants reçus entre 60 et 65 ans. C'est bien ça?
En fait, c'est que si une personne qui ne recevrait pas de rente entre 60 et 65 ans ne serait pas pénalisée. Cependant, une personne qui reçoit une rente d'invalidité est normalement incapable d'exercer tout emploi réellement rémunérateur, ce qui fait en sorte qu'elle ne peut pas tout simplement décider entre l'âge de 60 et 65 ans d'arrêter de recevoir sa rente d'invalidité pour éviter d'être pénalisée. Ce qui fait en sorte qu'il y a donc un élément de discrimination basé sur le handicap qui est propre à cette mesure de pénalité-là.
Justement, les gens qui reçoivent ces prestations, c'est pas par choix, on le dit. Donc, c'est souvent un élément de santé qui vient modifier les capacités de la personne à occuper un travail. Ils n'ont pas d'alternative, ces gens-là.
Non, parce qu'en fait, c'est souvent ce qu'on appelle un revenu vraiment de base là, qui est assuré par la rente d'invalidité, c'est une aide de dernier recours. Donc, effectivement, c'est des gens qui n'ont pas la possibilité de gagner leur vie en raison de leur limitation, et c'est pour ça que cette mesure sociale-là a été mise en place au départ. Et donc, la modification, en fait, amenant ces bénéficiaires-là à être pénalisés, date de 1997, donc et a été mise en application vraiment à partir de 1999. Donc, toutes les personnes qui ont commencé à recevoir leur rente d'invalidité après cette période-là sont pénalisées de façon très arbitraire.
Les compagnies d'assurance privée demandent à leurs bénéficiaires de faire une demande à la Régie des rentes pour diminuer le montant qu'elles ont à verser. Il y a donc aucun moyen pour ces personnes, finalement, d'éviter de recevoir des sommes de la RRQ pendant cette période-là?
Effectivement, ils n'ont pas le contrôle sur le fait de décider ou non de le recevoir. Et je vous dirais qu'il y a par exemple, même les bénéficiaires de, de la société d'assurance automobile, dont les gens qui ont eu un accident de voiture se retrouvent dans la même situation.
Mm-hmm.
Effectivement, c'est la société elle-même, la SAC, qui va percevoir, si on veut, la rente de validité de la personne. Et de manière automatique, elle se verra attribuer la pénalité à l'âge de 65 ans.
Monsieur Messier, c'est seulement le Québec qui applique cette règle. Pourquoi donc?
En fait, c'est une bonne question. C'est sûr que le Québec est le seul à avoir... à s'être créé, si on veut, une régie des rentes lorsque le programme, si on veut, national a été mis en place, qui fait en sorte qu'il y ait à part comparativement du reste du Canada. Et l'ensemble des autres provinces n'applique pas de mesures similaires. C'est donc une autre preuve, à notre sens aussi, qu'il y a vraiment un problème dans l'application de la loi au Québec.
Et quelles sont vos démarches auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse?
En fait, lorsqu'on a entamé le dossier en 2012, on a interpellé effectivement la Commission des droits de la personne sur cette question-là. Et la réponse qu'on a obtenue à ce moment-là était que la Commission ne considérait pas que c'était de son ressort, étant donné que c'était des éléments plus administratifs. Ils nous ont référé au protecteur du citoyen. Alors, au protecteur du citoyen, quand on s'est adressé à eux, ils nous ont dit que en tant que tel, ils considéraient que c'était vraiment plus un cas de discrimination et donc que ça ne relevait pas d'eux. Et ils nous ont référé de nouveau à la Commission des droits de la personne. Et donc, l'année passée, on a relancé finalement les deux en leur disant que, bon, on ne peut pas se relancer mutuellement comme ça. Et le protecteur du citoyen a vraiment décidé que c'était pas du tout à lui de trancher sur cette question-là et que c'était vraiment plus au niveau de la Commission. Et on attend toujours une réponse de la Commission depuis ce temps-là, qui s'est pas manifestée.
OK. Donc, en ce moment, il n'y a pas d'instance qui peut porter le dossier devant des tribunaux ou bien agir comme justement comme porteur de dossier auprès des instances gouvernementales.
Bien, c'est-à-dire que en ce moment, aucune de ces deux instances-là n'a volontairement décidé de le faire. Nous, c'est sûr que depuis qu'on a entamé le dossier, le gros espoir, si on veut confondre, c'est sur le fait qu'on nous dit qu'il va y avoir une consultation publique sur le régime des rentes du Québec, qui devait normalement se tenir à l'automne 2015 et qui, pour l'instant, n'a toujours pas été annoncée. On se tient donc au courant, on essaie de savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais donc, c'est le moment où la population va pouvoir se prononcer sur cet élément-là. L'espoir qu'on fonde, c'est que c'est vraiment à ce moment-là qu'on va réussir à avoir une oreille au problème et qu'on va réussir à être entendu. Cependant, si effectivement on se rend compte que lors de la consultation, les résultats ne sont pas probants, il y a effectivement la possibilité de porter officiellement plainte au niveau des droits de la Commission des droits de la personne pour entamer une démarche légale. Cependant, c'est sûr que ce type de démarche-là est très, très longue, très compliquée. Et donc, on espère réussir à avoir gain de cause avant de se rendre là.
Oui. Monsieur Messier, est-ce qu'il y a eu des contestations de cette règle par le passé?
En fait, il y a effectivement, à notre connaissance, 6 causes qui ont été portées au tribunal administratif du Québec. Cependant, le tribunal administratif du Québec a plutôt le mandat de valider l'application en tant que telle des règles en place. Et donc, effectivement, les plaintes qui ont été déposées par des particuliers ont été déboutées, mais dans le sens où le législateur a considéré que l'application telle qu'elle était prévue par la loi était respectée dans ces cas-là. Donc, elle s'est pas penchée pour dire s'il y avait, si elle était juste ou si elle était valable, mais bien si elle était appliquée de façon conforme, ce qui était le cas.
Mm-hmm. En terminant, M. Messier, s'il y a des gens qui sont, si on veut, victimes de cet état de fait-là, de ce flou aussi, en ce qui concerne la réglementation de la RRQ, qui bénéficient d'une rente d'invalidité et qui vont peut-être l'année prochaine, plus tard cette année ou dans les prochaines années, se voir amputer une partie de leurs revenus, qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
En fait, j'invite tout le monde à communiquer directement avec moi, l'épinière et Motricité Québec, donc avec moi qui est responsable du dossier, pour qu'on puisse les guider dans le processus pour un dépôt de mémoire ou d'avis lorsqu'il y aura consultation publique pour se faire entendre. Donc, les gens peuvent me contacter par téléphone au 514-341-7272 au poste 235 ou encore par courriel au nmessier@moilepinière.com. Et je tiens à mentionner que c'est pour les gens qui vont être pénalisés ou qui sont déjà, c'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à être pénalisés, dont les rentes sont amputées. Il y en aura en fait de plus en plus, étant donné que une grande part de la population des personnes handicapées finalement arrive. C'est la première vague, si on veut, de personnes qui arrivent à l'âge de la retraite. Et donc, ce problème-là, qui est encore très inconnu dans le grand public, va prendre de l'ampleur dans les prochaines années.
On vous souhaite vraiment bonne chance dans vos démarches. On va continuer à suivre le dossier de près, notamment ces consultations publiques dont on attend l'annonce. Nicolas Messier, vous êtes conseiller principal en intégration, volet défense des droits chez Moelle Épinière et Motricité Québec, Mémo Québec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Merci à vous.